Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons quitté la petite duchesse du Maine, apparemment tout entière occupée par les fêtes continuelles qu'elle donne en son château de Sceaux. Mais ceci n'est qu'apparence. La duchesse veut pousser son pion vers le pouvoir suprême. Et son pion, c'est le duc, son mari. Seconde partie, splendeurs et misères. Le duc n'y comprend rien. Voyant sa femme appliquée à le ruiner en feu d'artifice et en fête, il se figure qu'elle ne pense plus du tout aux affaires politiques. Il continue néanmoins à être très assidu à Versailles, à suivre le roi à Trianon, à Marly, à Fontainebleau. Il s'applique à être toujours le bon fils, le tendre fils, qui ne peut pas se passer de son père, empressé, complaisant, tout dévoué. À force d'être aussi assidu auprès du roi, il gagne chaque année quelques nouvelles charges pour lui ou ses enfants. Un privilège qui le rapproche du trône. Il est déjà un légitimé. Et voilà qu'après avoir été fait pair de France, l'une des dignités les plus élevées de la noblesse après prince du sang, il devient à présent prince du sang officiel, jouissant des mêmes honneurs que les princes du sang de naissance régulière. Pour un enfant naturel, voilà qui est une magnifique réussite. Mais il va avoir plus encore. Après la mort des ducs de Bourgogne et de Berry, il figure à présent sur la succession de Louis XIV. Le petit boiteux touche la couronne du bout du doigt. Mais ça n'est pas tout. Louis XIV, soupçonnant le duc d'Orléans, futur régent, d'avoir empoisonné le dauphin et son frère, Louis XIV le prive de ses principales prérogatives et surtout lui enlève la régence qu'il transfère sur le duc du Maine. Voilà, le duc touche la couronne des deux mains, car la santé du roi Louis XIV décline inexorablement. Mais il est agité d'autant de crainte que d'espérance, quand son père ne sera plus là. Que deviendront toutes les grandeurs dont on l'a comblé, quand son père ne sera plus là? Que deviendront toutes les grandeurs dont il l'a comblé? Fin 1714, la situation est très simple. L'héritier du trône, le futur Louis XV, n'a pas 5 ans. 2 hommes seulement, le duc d'Orléans et le duc du Maine, peuvent prétendre à gouverner en son nom. Le duc Philippe d'Orléans est régent par droit de naissance et chef naturel de la haute noblesse, mais dans une profonde disgrâce. Monsieur du Maine est peu considéré et peu aimé, hormis par quelques vieux courtisans de son père, mais il a pour lui le testament du roi, la volonté du roi, le cœur du roi. C'est beaucoup, c'est tout. Monsieur et Madame du Maine le croient en tout cas. Monsieur du Maine exécute en tout point les plans de sa femme. Il ne bouge plus de la chambre du roi. Sa femme le harcèle quotidiennement pour qu'il se hâte d'obtenir encore ceci ou encore cela. Le 23 août, il obtient encore un codicille de son père moribond. Un codicille, c'est-à-dire un ajout au testament. Louis XIV expire le 1er septembre. Dès le lendemain, conformément à l'usage, il y a une séance solennelle au Parlement pour lire le testament du roi. Monsieur du Maine, qui en connaît le contenu, se voit déjà le maître de la France et son épouse la maîtresse. Il entre dans la salle d'un air radieux. « Il crevait de joie », écrit Saint-Simon. Mais il en ressort, le visage défait, l'air anéanti. Testament et codicille ont été annulés d'une seule voix au profit de son rival. Roi le matin, Monsieur du Maine n'est plus le soir qu'un maître d'école. On lui a laissé la surintendance de l'éducation d'un monarque de 5 ans. En l'apprenant, La duchesse entre dans une colère noire. Il faut agir, et vite. Monsieur Dumaine a perdu le pouvoir, mais il est toujours prince du sang, en vertu des édits du roi son père. Pas sûr, car sa propre famille, son frère, son neveu, parle maintenant d'abolir tous les édits en faveur des enfants légitimés, déclenchant une guerre entre princes du sang légitime et bâtards royaux. Il y a procès. On se bat à coups de mémoire, de protestations, de requêtes. Madame Dumaine, en tête pendant cette campagne, a quitté sa vallée chérie de Sceaux pour les Tuileries, où le régent s'est installé avec le petit Louis XV. Elle s'improvise légiste. Jour et nuit, elle compulse des dossiers, annote des livres de droit. Elle a mis toute sa cour au travail. Ses poètes sont transformés en clercs de procureur. Adieu les vers latins, adieu les énigmes et les madrigaux, adieu les grâces et les muses. Tous travaillent pour prouver qu'elle a raison et que M. Dumaine n'est pas un bâtard du moment que le roi l'avait dispensé d'en être un. De partout, on accourt au château de Sceaux, où est revenue maintenant la duchesse, pour lui proposer des recettes infaillibles pour gagner son procès. On cherche des exemples dans l'histoire ancienne. On lui propose de faux documents. La duchesse et son époux ont beau se démener. Un arrêt pris par le conseil de régence au mois de juillet 1717 leur enlève le droit de succéder au trône et la qualité de prince du sang. En les voyant vaincus, leurs ennemis s'enhardissent. Après avoir privé les légitimés de leur qualité de prince du sang, les avoir réduits au simple rang de père, voilà que l'on prive le duc Dumaine de l'éducation du roi. La duchesse Dumaine ne comprend pas que son époux se laisse ainsi chasser sans résistance. Elle l'insulte. Elle a des crises de nerfs. Il a donc suffi de deux traits de plume pour enlever au fils bien-aimé du plus absolu des monarques les grâces entassées sur sa tête pendant 40 ans. Madame Dumaine est priée de quitter les Tuileries. Elle est dans un état pitoyable. Le chagrin et le dépit lui ont causé un grand choc. Tantôt immobile et muette, les yeux fixes, elle paraît une statue de douleur, tantôt folle de rage. Elle accable son mari de reproches sanglants, l'injurie sur sa naissance, sur sa lâcheté, sur leur mariage. Le pauvre homme est effondré et pleure à chaudes larmes. Madame Dumaine aurait dû s'avouer battue, renoncer aux affaires et reprendre sa couronne de reine de théâtre. C'est en tout cas l'avis de son époux. Au lieu de cela, elle s'entête et va devenir conspiratrice, recevoir chez elle à Sceaux une nuée d'aventuriers, d'intrigants et d'imbéciles qui lui offrent leurs conseils. Elle se met à écrire des correspondances à l'encre sympathique, envoie des espions qui sont en fait à la solde de l'abbé Dubois, ce qu'elle ignore. L'abbé Dubois, c'est le premier ministre du régent. En privé, elle plaisante à propos du jour où elle sera en prison. Elle interdit que l'on parle de quoi que ce soit à son époux. Elle va prendre un rôle, très subalterne certes, mais réel, dans une plus vaste conspiration baptisée la conspiration de Célamare, dont l'objectif est de mettre sur le trône un Bourbon d'Espagne en cas de mort de Louis XV. La conjuration de pacotille de Madame Dumaine n'est finalement que la continuation des petits jeux d'esprit de sa cour de Sceaux, et le complot est vite éventé. Sa découverte est suivie de nombreuses arrestations. Le 29 décembre 1718 au matin, Monsieur et Madame Dumaine sont arrêtés au Sceau du Lit, l'un à Sceaux, l'autre à leur domicile de la rue Saint-Honoré. Monsieur est prié très respectueusement de monter dans un carrosse qui l'attend. Il obéit, sans une plainte, sans une question sur sa femme ou ses enfants. On le conduit dans la citadelle de Doullens en Picardie. Là, on lui laisse quelques livres, mais ni encre ni papier. Quand on lui dit que sa femme a conspiré contre le duc d'Orléans, il déclare que c'est une indignité et qu'il ne reverrait jamais Madame Dumaine une fois sortie de prison. Madame Dumaine n'est pas comme son époux de la race des agneaux. Elle proteste contre la violence qui est faite à une personne de son rang, refuse de se presser, tâche de gagner du temps. Au terme de 4 heures de cris et de résistance, on parvient tout de même à l'extirper de chez elle. Nouvelle crise de rage quand elle s'aperçoit qu'elle va voyager dans de simples voitures de louage. Monter là-dedans, elle, une Condée, mais quelle honte! Cependant, elle monte, et pendant tout le voyage, adopte l'attitude d'une grande reine persécutée. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour s'exprimer comme une tragédienne, passant de l'imprécation à la supplication, jouant les grandes indignées puis la grande malade. Elle se retrouve enfermée au château de Savigny-les-Beaunes, près de Dijon. Jamais elle n'aurait pensé qu'on puisse la mettre dans une vraie prison. Elle croyait qu'on la conduirait dans quelque belle maison royale, où il y aurait une cour et où elle pourrait jouer la captive après avoir joué les conspiratrices. Mais se retrouver enfermée entre 4 murs, avec ses femmes de chambre, elle est révoltée. Homme très débonnaire, le régent permet à la coupable d'avoir une dame d'honneur, une demoiselle de compagnie, un médecin, un aumônier, 5 femmes de chambre. Bientôt, la petite duchesse du Maine quitte Dijon pour Châlons, puis Châlons pour une belle demeure à la campagne où elle est autorisée à communiquer avec le dehors et à recevoir des visites. Elle tombe néanmoins dans un sombre désespoir. Tout son courage l'abandonne et elle se croit la plus malheureuse des créatures de la terre. Elle proteste de son innocence. Elle déclare qu'avant de mourir, elle chargera son confesseur de dire à toute la France qu'elle mourra innocente de tout ce dont on l'a accusée, qu'elle en jurera même sur l'hostie en la recevant. L'héroïne a disparu. Ne reste qu'une vieille enfant, craignant le fouet, se désolant parce qu'on lui a ôté ses joujoux. La duchesse passe 5 mois à Savigny-les-Beaunes, puis 3 mois à Châlons. Finalement, le régent promet de gracier tout le monde à condition que toutes les personnalités impliquées avouent. Madame du Maine doit boire le calice et se confesser. Dans sa déclaration, elle finit quand même par s'intéresser un peu à son époux et déclare « Il n'a jamais su le moindre mot de toutes ces intrigues. Je me suis cachée de lui plus que de personne au monde, et lorsque Monsieur du Maine entrait dans ma chambre, dans les temps que je parlais avec ces messieurs de ces sortes d'affaires, nous changions de discours. » Les portes des prisons s'ouvrent. Poètes et gentilshommes, abbés et valets, chacun retourne à ses affaires. Madame du Maine revient à Sceaux en janvier 1720. Elle y débarque avec de grands signes de joie. Bientôt, elle a même la permission d'aller à Paris saluer son ennemi, le régent. Elle lui saute au cou et l'embrasse sur les 2 joues. Monsieur du Maine lui profite de cette affaire pour se débarrasser de sa femme, à qui il en veut beaucoup de la peur qu'il a eue en prison. Et puis il redoute ses folles dépenses, alors lui se retire d'abord à Clagny. Il refuse de recevoir la duchesse et lui déclare qu'elle devra à l'avenir se contenter d'une pension. Elle fait son siège, tant et si bien, que 6 mois plus tard, il est de retour à Sceaux. C'est là qu'il finira ses jours, au milieu de ses livres, le 14 mai 1736, à 66 ans. Toutes ces histoires de procès, de complots et de cachots vont si mal à cette princesse Tom Pouce, reine des falbalas et des fanfreluches, qu'on a peine à les prendre au sérieux. Enfin, le cauchemar est fini, les coupables respirent et tout rentre dans l'ordre. Madame du Maine se retrouve exactement la même qu'au moment de son départ pour se marier à Versailles. Elle a simplement près de 30 ans de plus. Avec tout ça, elle n'a pas perdu un grain de son orgueil, ni renoncé à un seul enfantillage, mais elle est guérie à jamais de la politique. Dans les années qui suivent, la vie au château de Sceaux reprend son cours. La duchesse du Maine héberge un temps sur son domaine le grand Voltaire en personne, alors que celui-ci a maille à partir avec le régent. La nuit, Il se glisse chez elle pour lui lire ce qu'il a écrit. Ah, ce sont là de bonnes nuits pour la duchesse. Elle aura encore des comédies à foison, des tragédies, des opéras, des ballets de la main de Voltaire ou d'autres auteurs. 77 ans sonnent et Madame Dumaine s'amuse toujours. Voltaire écrit de Berlin le 18 décembre 1752 à l'un des plus beaux esprits de Sceaux.
Mettez-moi toujours aux pieds de Madame la Duchesse Dumaine. C'est une âme prédestinée, elle aimera la comédie jusqu'au dernier moment, et quand elle sera malade, je vous conseille de lui administrer quelques belles pièces au lieu de l'extrême onction. On meurt comme on a vécu.
Elle est toujours violente et fantasque, et cela lui sied de moins en moins bien avec l'âge. Une jeune princesse peut avoir une certaine grâce à frapper du pied et demander la lune, mais les extravagances d'une petite femme en colère n'amusent plus personne. Or la duchesse se montre toujours exigeante et tyrannique, maintenant ses invités dans une sorte d'esclavage. Elle souffre toujours d'insomnie, pendant lesquelles il faut l'amuser ou lui faire la lecture. Elle met toujours une quantité prodigieuse de rouge et fait toujours des séances de 2 heures devant son miroir, pendant lesquelles il lui faut autour d'elle un cercle d'interlocuteurs. Elle a toujours l'esprit vif et curieux, elle est encore éloquente, originale, vivante, enchantée d'elle-même. Le 23 janvier 1753, elle meurt des suites d'un mauvais rhume, elle laisse 2 fils qui mourront sans descendance. Ainsi finit cette étrange petite créature. À travers ses étourderies, ses singularités, ses inégalités d'humeur et de manière, une chose du moins resta chez elle inébranlable, la foi en la divinité de son rang. C'est là ce qui explique sa superbe indifférence pour autrui, et ce que chez une moins grande dame on appellerait l'égoïsme. Et c'est là aussi ce qui la rend si curieuse et si intéressante à nos yeux. C'est la fin de ce double épisode consacré à Louise de Bourbon-Condé, duchesse du Maine. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook « Au cœur de l'histoire ». Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est de Clément Ibrahim. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt !